C'est bon, maintenant j'enregistre sur vous. Pourquoi cette table ronde? Parce que, je commence par là, parce que, en fait, la couverture, l'illustration, c'est le premier trait d'union entre l'auteur et le lecteur. On sait tous maintenant que l'importance marketing d'une couverture, c'est devenu un enjeu énorme. On en a parlé sur la table ronde sur l'édition hier, c'est avoir une belle couve, ça t'assure a priori une bonne place et de bonnes ventes. Là, on vous a réuni trois illustrateurs et demi. Certains ont fait des couvertures essentiellement, d'autres de la BD, ou de ce qu'on pourrait appeler du beau livre. Ouais, c'est l'expression consacrée maintenant, de beaux objets livres. Ça faire compte trois au moins d'entre eux passés par le jeu. Nicolas, j'ose pas dire, je suis pas certaine. T'es pas passé par le jeu.
Par le jeu.
Le vidéo.
Si.
Si. Bon, ben voilà. On en a quatre. T'es pas un ancien infogramme. Hein.
Non, mais ils m'ont édité, oui.
Ouais. Voilà. Donc, quatre anciens infogrammes, pas trois et demi. Et je vais arrêter avec mes bêtises pour passer. J'aimerais bien justement qu'on revienne un petit peu sur vos parcours. Et surtout, on va commencer par. Pour vous, c'était une envie de môme de dessiner ou c'était simplement une nécessité simplement? Oui, je suis un peu brutale.
Oui, ben, il y a fatalement les deux. Oui, c'est vital, mais ça n'a pas été vital. La musique était beaucoup plus vitale, en fait. Adulte, c'est le dessin, oui. Ouais, le dessin devient vraiment vital. C'est à la fois un moyen de... c'est à la fois pour soi au quotidien, c'est quasiment une thérapie. C'est quasiment une thérapie au quotidien. Mais c'est pas que ça, c'est aussi maintenant, je le vois, que ce soit professionnellement ou pas professionnellement, quand j'attrape un livre, j'ai envie de pouvoir me représenter les choses, et plus je dessine, plus j'ai l'impression que ça développe aussi des capacités à dessiner soi-même l'univers dans lequel on navigue quand on lit. Et moi, ça me pousse à encore plus dessiner. C'est bête, mais on a une façon de travailler quand on commence à illustrer, du moment quand j'ai illustré un livre, je vais lire le livre pour essayer de faire des synthèses, soit par chapitre, soit voilà. Et petit à petit, j'ai tendance à le faire pour tous les livres que je lis. Alors c'est même pas une lecture professionnelle, hein, j'appelle pas ça une lecture professionnelle, mais du coup, je me travaille les neurones pour savoir comment est la géographie, quelle est la température de la planète, comment ça se passe, etc. Et de reconstruire un peu toute la navigation et de savoir comment se passe l'univers dans lequel je voyage, en fait. Et voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais si, c'est ce qui était une sorte de nécessité plus jeune, c'est commué en amour de reconstruire des choses comme ça, pour me faire des images tout seul dans ma tête. Voilà, c'est un espace de liberté.
C'est très joli, en tout cas.
Bonjour. Donc, pour répondre à ta question, moi, je pense que c'était surtout pour joindre deux plaisirs, en fait, celui de la lecture et du dessin. Et je me souviens, du plaisir de lecture en étant môme, en fait, en refermant le bouquin, en me demandant, pourquoi il y a cette couverture, qu'est-ce qui est passé dans la tête de l'illustrateur pour avoir une telle image sur la couverture. Après, bon, moi, j'ai pas eu la chance, un tout petit épisode musical... qui n'a pas tellement continué, mais par rapport à la musique, en fait, c'était les pochettes de disques essentiellement, en fait, qui m'ont ramené à cette curiosité graphique. Et après, quoi dire, par rapport à la couverture elle-même, en fait, et par rapport à ma manière de travailler vis-à-vis d'un roman, je pense que ce qui a été important à l'époque, que je prenais comme un problème, en fait, surtout quand je me suis rendu compte exactement de ce qui était derrière ça, c'était par exemple à l'époque les couvertures illustrées par Swinmack, par exemple, qui, moi, m'ont très influencé quand j'étais gamin. Je me demandais comment ça se fait qu'il y a cette interprétation sur le texte. Alors après, quand on devient professionnel, on apprend que non, en fait, c'était pas des commandes d'illustration, c'était des images achetées au kilo et que l'éditeur avait placé parce que dans l'histoire il y avait une blonde et que donc il y avait une blonde dans l'illustration et donc il plaçait une blonde dans l'illustration. Ce qui fait qu'il y avait forcément un décalage entre l'illustration elle-même et le texte. Et moi je me souviens en étant gamin, j'essayais de raccrocher forcément, de raccrocher le texte à l'illustration que je voyais. Et je crois que ce qui m'a influencé en fait dans ma manière de travailler le texte aujourd'hui, c'est finalement le schisme qui est entre l'illustration que je voyais et le texte, qui était du coup dû aux besoins matériels de l'éditeur et que moi j'ai interprété comme étant en fait la poésie de l'illustration. Quoi, en fait. Et du coup, moi mon travail, je l'ai glissé là-dedans en fait. Ce qui fait que c'est pour ça que sur les couvertures, j'interprète le texte dans sa globalité et souvent. Enfin, surtout à la, entre guillemets, à la grande époque du fleuve noir où je faisais une couverture en 3 jours parce qu'il y avait beaucoup de couvertures à faire et autres. Souvent, je lisais le texte, je lisais plusieurs romans en fait, et j'attendais avant de me mettre à bosser en fait, de savoir qu'est-ce qui allait me rester du roman en fait. Au moins, j'étais sûr de ne pas être obligé de tomber dans le détail, tu vois, dans l'anecdote de l'histoire illustrée. Quoi, en fait. Voilà. Je pense que c'est un petit peu ça. Ouais. Et puis, effectivement, comme tu dis, le plaisir de dessiner en étant gamin et de pouvoir le continuer en étant adulte, passer des heures sur une feuille blanche, c'est une méditation. Quoi. Enfin, c'est vraiment, forcément, ça déforme le cerveau et forcément, du coup, ça déforme la personnalité. Et ça fait voir le monde autrement. Quoi.
Bonjour, micro. C'est la première fois que j'utilise cette chose-là. Alors,
t'apprendras à être batteur.
Ouais, c'est ça. Derrière, normalement. Donc, l'illustration en tant que telle, moi je viens du jeu vidéo, j'étais graphiste dans le jeu vidéo. Donc, ma participation dans l'illustration, c'était plus vraiment de prendre un personnage, de le créer, de l'animer, de prendre des décors, etc. sur quelque chose qui était déjà quasiment mis en place. Donc, on avait une direction, on avait des idées qui étaient déjà placées. Donc, c'était assez facile. Mais rentrer dans le métier du dessin, quel qu'il soit, pour moi, c'était pas tellement une nécessité, c'était plus une évidence. Je suis tombé dedans, comme tout le monde, on est tombé dedans quand on était petit, mais j'aime le dessin depuis que je suis tout petit. En fait, je suis tombé dedans par hasard, et puis ça a bien marché, et puis c'est agréable, et puis effectivement, il y a un côté auto-analytique parfois, et puis on finit par avoir besoin de dessiner. Et puis faut continuer, et puis faut arriver à mettre sa propre vision, son propre univers, sans dénaturer celui de l'auteur ou des auteurs ou l'œuvre globale. Et c'est pas facile. Et je passerai bien le micro à Pascal, mais ça va être difficile aussi. Donc,
on a dit qu'on arrêtait de blaguer sur Pascal.
C'est vrai. Et là, je sens aussi que je suis en train de prendre des couleurs. Vous êtes loin, c'est bien.
Après, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même qu'on signale, et je crois que ça concerne tous les illustrateurs masculins, c'est surtout quand tu passes par le dessin et que tu te rends compte qu'à 14 ans, ça fait rire les filles, du coup, tu as envie de continuer.
Oui, j'en entends pas mal avec les musiciens aussi dans le même genre. Bon, les batteurs, évidemment, c'est autre chose. Je cherche ma question suivante, du coup, à force de dire des bêtises, j'ai perdu mon fil, tu vois. Est-ce que vous avez un univers préféré, en fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle tout de suite plus ?
Ah, oui, bien. Voilà.
On a une super discussion avec Sirotota à ce propos, et puis il était sur une dédicace, et puis bloque à un moment, il me fait « Nicolas, t'as pas remarqué, finalement, on dessine jamais ce qu'on a envie de faire. » J'ai fait « Pardon ?» Puis il me fait « Ouais, moi en fait, je dessine pas ce que j'aimerais dessiner. » Ouais, donc on en discute un peu. Alors si, évidemment, il prend du plaisir à dessiner ce qu'il dessine, mais effectivement, il y a deux choses. On a certaines compétences, finalement, pour dessiner certaines choses, parce que c'est au travers du style que l'on a et de la façon dont on aborde l'image qui fait qu'on va épouser plutôt tel ou tel champ graphique, plutôt tel ou tel univers. J'en viens à ta question. C'est un peu long,
en fait,
mais c'est pour expliquer tout ça.
C'est très bien dit.
C'est
juste, j'ai l'œil aux aguets à cause de Pascal.
Ouais, mais c'est un peu pour expliquer tout ça. Et Moi, j'ai réfléchi ça, j'étais sur ma dédicace, et puis j'ai réfléchi, je lui fais « Ouais, mais t'as raison. On se retrouve souvent, et puis alors on a des périodes aussi, ça pendant plusieurs années, on va plutôt travailler dans un champ graphique, on va plutôt faire de la science-fiction, un autre moment plutôt l'heroic fantasy, plutôt du lutin, ou alors passer à de l'histoire contemporaine, enfin il y a, voilà, y a un peu, ou à Lovecraft, oui, ou voilà, Lovecraft. Et je lui fais, ouais, moi il y a eu toute une période où je dessinais avec des vaisseaux spatiaux, des trucs de SF, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai toujours dit, non, moi je fais plutôt l'heroic fantasy. C'est-à-dire, je disais aux gens, je fais plutôt l'heroic fantasy, alors je dessinais des vaisseaux à côté. Et il y a, sans être schizo, il y a des choses que l'on aime, mais ce que l'on arrive à projeter n'est pas forcément ce que l'on aime le plus dans la tête. Au même titre que, j'aimerais faire des illustrations ou des peintures sur, en relation avec le cinéma de Bergman, par exemple, que j'aime beaucoup, oui, mais ça correspond à rien, et puis ça correspond pas à ce que je fais, donc de toute façon, je le ferai pas. Et je ferai plus facilement une peinture Star Wars qu'une peinture de Bergman. Voilà, c'est aussi bête que ça, aussi. Donc, on navigue un peu dans tous ces champs, et après, je trouve que l'une des belles libertés que l'on peut prendre, c'est justement de se dire, va au plus profond de ce que tu as envie de faire, même si ton style, a priori, n'est pas censé correspondre tout à fait, et puis naviguer là-dedans, t'amuser. Mais voilà, je trouve cette dimension assez intéressante de pas forcément correspondre à ce qu'on décide. Ouais. Voilà. Mais qui en même temps, in fine, finalement, bon, on est ce qu'on est. Donc, c'est ce que je raconte à Sirotota. Je disais, je me souviens d'une émission sur la bande dessinée, et qui parlait de. C'était Eddie Pape, un des vieux dessinateurs de la bande dessinée. Il était filmé, c'était déjà dans les années 90, il avait déjà 80 ans à peu près. Avec sa femme dans un salon avec des tapisseries, des trucs comme ça, un intérieur abominable avec des petits trucs au crochet et tout. Et il y a juste un tableau qui est accroché au mur. Et il y a l'intervieweur qui dit « Et ça, c'est quoi ?» Et puis il y a Eddie Pape qui dit « Alors, il avait un dessin très classique, ça fait un peu poussif aujourd'hui, enfin à voir, c'est un peu bâton, un peu dur, etc. Mais il en a pondu des kilomètres. Hein. » Et il dit, ça c'est moi qui ai fait ça, c'est de la peinture à l'huile. Alors, je leur dis, mais vous faites de la peinture à l'huile? Il dit, non, surtout pas, je suis nul, c'est pas mon truc, je fais de la bande dessinée. Je vous promets, c'était 10 fois mieux que ce qu'il a pu faire en bande dessinée. Mm-hmm. Alors, c'est un type qui apportait beaucoup de choses en bande dessinée, mais il n'osait pas se dire que finalement, il correspondait peut-être à autre chose et qu'il aurait dû attaquer ce qu'il devait estimer lui comme la grande peinture et faire simplement ce qu'il aimait. Et il n'a pas pris cette liberté, ça se sentait. Et c'était assez terrible, assez sordide en fait.
Oui, je vois très bien. C'est étonnant. J'espère qu'on j'oublierai pas de revenir sur la différence entre illustration et peinture. Et l'art avec un grand art.
Oui,
peinture.
Oui, c'est vrai.
On a dit
qu'on arrêtait.
Non, alors du coup, oui, entre les univers, qu'est-ce qui. Oui.
Ce que tu représentes,
c'est. Ouais, est-ce qu'on a un univers préféré ou, je dirais oui, quand même, finalement. Il m'a fallu quand même pas mal de temps pour m'en rendre compte, simplement, en fait. Hein. Après, je pense que ça peut rebondir à l'anecdote que tu viens de raconter, parce que quand on se positionne en tant qu'illustrateur, moi, en tous les cas, je me suis vraiment positionné en tant qu'illustrateur, je dirais, au service de l'auteur. Et je ne m'étais pas vraiment posé la question de savoir qu'est-ce que j'aimais dessiner ou pas, en fait, au départ. Les textes qui me nourrissaient, alors, des textes qui te nourrissent plus ou moins bien que d'autres. Petit à petit, je dirais, le fil rouge, et puis en voyant dans quel texte tu t'investissais le plus et qu'est-ce qui résonnait le mieux, ça s'est dégagé, moi, petit à petit, en fait. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais attiré par des univers de science-fiction essentiellement. Et forcément, quand on démarre, on s'attaque à la forme en premier. Donc il y avait, j'essayais à chaque fois de mettre tous les artefacts de la science-fiction. Et puis petit à petit, le fait de travailler, de découvrir d'autres textes, d'autres sensibilités, ça m'a permis de me dégager de ces artefacts, en fait, et pour pouvoir illustrer un texte de science-fiction uniquement en parlant de la poésie du texte, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant que de parler des vaisseaux spatiaux, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'en fonction des illustrateurs, on n'a pas du tout la même approche. Moi, quand je vois Manchu se taper un pinceau, un poil pour dessiner la boîte de coca qui est écrasée à telle page, ça me rend fou, quoi. Je me dis, mais est-ce que moi j'en serais incapable? Et bravo à lui, mais moi j'en serais totalement incapable. Et donc c'est vrai qu'entre la science-fiction et le fantastique, j'ai longtemps hésité. Aujourd'hui, si tu me demandes vraiment quel est mon univers préféré, finalement je te dirais que c'est le fantastique. Parce qu'il est plus souvent question d'introspection que dans la SF, en fait. Et ce que j'aime dans la SF, c'est quand elle parle d'introspection, quand elle parle d'humanité, quand elle parle de, voilà, de transcendance, de l'humain, en fait, simplement. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans les textes que j'ai illustrés, essentiellement avec les auteurs avec lesquels j'ai beaucoup collaboré. Ceux avec qui j'ai moins collaboré, c'était souvent plus anecdotique. Je me souviens, sans le citer, j'avais fait un des premiers livres que j'avais illustré, c'était un auteur français. Et moi, je lisais que de la SF anglo-saxonne, forcément, parce qu'on avait accès en majorité à ça. Et je suis arrivé, j'étais tout content d'avoir la commande, forcément. Mais je me souviens, du coup, j'avais déjà commencé à déconner, du coup, avec les éditeurs, puisque la première question que je pose à l'éditrice en question, en remettant mon illustration, je lui dis, mais l'auteur, là, vous m'avez demandé d'illustrer. C'est un bon. Comment il est là, comment vous le considérez? Et là, j'ai senti l'éditeur. J'ai bien vu que c'était la question de trop, quoi. Parce que c'était quasiment ma première illustration, ma première commande, et j'étais déjà en train de lui dire que son texte était nul par rapport à ce que je lisais en étant gamin. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre la science-fiction française et la science-fiction anglo-saxonne. Après, bon, il y a eu d'autres textes qui sont arrivés, et puis d'autres auteurs, d'autres rencontres avec Heyerdahl, avec tout ça, qui m'ont un peu réconcilié, moi, avec la science-fiction française. Mais c'est vrai qu'au début, c'était âpre, quoi, quand on passe de Space Opera à la Van Vogt ou à la Asimov, et puis on arrive à un texte français qui parle uniquement de lutte sociale ou, je dirais, de réminiscence des années 60. Je me dis, putain, ça fait pas rêver, quoi. Et voilà, du coup, bon, bah, petit à petit, j'ai quand même trouvé mon intérêt là-dedans. Voilà.
Ah, moi j'ai pas votre expérience, hein, évidemment, mais moi mes facilités, disons, iraient plutôt vers la Greek Fantasy, donc ça va, on a une belle déclinaison, mes expériences personnelles, tout ce que j'ai pu faire. Moi j'ai commencé à me dire que je pouvais dessiner par rapport à la gribouille que je faisais avant, à partir des comics. L'avantage, c'est qu'il y avait, des personnages forts, il y avait des proportions super intéressantes, des poses extrêmement héroïques. Ça allait très bien aussi à l'époque où j'ai fait quelques illustrations, petites illustrations pour des jeux de rôle. Donc beaucoup de jeux de rôle étaient plus basés sur le rock fantasy que le fantastique. À l'époque, il y avait Cthulhu, il y avait très peu de choses en fait dans le fantastique pur. Et puis voilà, mes facilités, disons, plus que mes goûts, mes facilités vont plus vers le rock fantasy. Puis ça, là aussi, ça permet de jouer avec des créatures, ça permet de... qui sont déjà ancrés dans l'imaginaire, dans la conscience collective, ce qui fait qu'on peut décliner plus facilement et le représenter plus facilement sans qu'il y ait une première critique rien qu'à la vue. Quand on fait un dragon, on lui met deux cornes, une crête, hop, c'est un dragon pour tout le monde, on est tranquille. Ensuite, qu'il soit beau, qu'il soit bien proportionné, là, c'est prendre sur. Il faut travailler un peu plus, il faut faire en sorte qu'il soit... Plus agressif, plus réaliste, plus ci, plus ça, ou plus joli, plus mignon, même si on veut faire l'illustration pour enfants, etc. Ma vision est plus vers la fantasy et la côte de maille, maille par maille.
Vous avez tous les trois... Je sais clairement pas me servir de ce machin. Vous avez tous les trois un sens du détail, de la finesse qui, moi, m'épate à chaque fois. Comment est-ce que vous arrivez à allier ça et l'idée que vous êtes fait d'un texte? C'est-à-dire que est-ce que vous avez une représentation très précise de ce que vous illustrez ou vous complétez avec votre imaginaire personnel C'est un peu chiant comme question, je vous l'accorde.
Oui. Non, non, elle est super intéressante, justement. Attends, faut réfléchir 5 secondes.
Ah, je l'ai.
Bien, tu l'as ? Vas-y.
Pour une fois,
n'est-ce pas, je sauve la peau. Moi, mon truc, c'est que j'ai toujours eu une banque de données, une banque d'images permanente en tête. Je passe mon temps à regarder les choses, pas vraiment à les analyser, mais à les regarder, à essayer de les comprendre, à essayer de comprendre pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi est-ce qu'on a les yeux à une telle distance, que s'ils sont trop écartés, ben, ça ne va pas du tout, s'ils sont trop rapprochés, ça donne une autre expression. Le côté, voilà, toute cette, pourquoi est-ce que telle forme passe, pourquoi ça marche, et pourquoi une forme légèrement différente ne marche pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et le fait d'avoir justement cette banque d'images permanente, de s'alimenter en permanence de tout, du reflet du soleil sur les fauteuils, des ondes qui peuvent être faites par les voilages, tout ça, ça c'est toujours quelque chose qu'on... Un jour, peut-être, j'en aurai besoin, un jour, peut-être, je le réutiliserai. Et ça fait partie, ouais, des compléments qu'on peut rajouter en cours de création. Je prépare très peu mes illustrations. Je sais que vous êtes des bûcheurs de fou. Moi, je prépare très peu mes illustrations et je me bloque quasiment à la première image que j'ai. J'essaie de m'en rapprocher. J'y arrive jamais, mais j'essaie de me rapprocher de cette première image. Et petit à petit, c'est comme un mantra. On va commencer et puis on ne sait jamais quand on s'arrête. Par contre, quand on commence, on va commencer maintenant, pas une heure avant. Moi, je ne sais pas comment vous faites aussi. Je vais vadrouiller, je vais faire n'importe quoi, je vais me perdre. Et puis à un moment donné, là, il faut que je décide maintenant. Et ça va être pendant les 2, 3, 4 heures suivantes. Le plus souvent, c'est entre 2h et 4h du mat. Hélas. Mais il faut que ça soit fait maintenant, là. Parce que si je reprends, je vais avoir tous les défauts. Et je vais recommencer à zéro et c'est dommage. Donc on va pousser, reprendre, repousser, etc. Et c'est vrai que les détails vont se faire au fur et à mesure. Donc pendant la création du croquis et pendant la création du dessin. Et je me suis rendu compte en regardant dessiner les autres sur le web, il y a de plus en plus maintenant de timelapse où on voit un dessin se faire en quelques secondes alors que ça a pris 3 heures. Et de voir comment on crée et se rendre compte qu'on va commencer là, puis on va reprendre ici, puis on va repartir là, tac tac, et la main en fait se balade toujours. Et ça aussi, je trouve ça fascinant à voir. Et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on va commencer ici, puis reprendre un petit détail là, puis en fait on va dessiner, on va faire on va pousser un détail, et puis on va revenir sur autre chose, se rebalader et puis repousser un détail. Faire, c'est passionnant.
Ouais, son déséquilibre. Tu veux. Du coup,
c'est ton voisin.
Oui, alors, pour répondre, je vais même revenir encore un petit peu avant. C'est-à-dire que avant d'investir les images que peuvent faire apparaître un auteur à la lecture pour essayer de les mettre en image. J'aimerais juste parler de la mise en image.
Mm-hmm. Oui, mais
finalement, quand tu parles d'un dessin, dans ma tête, ça fonctionne à peu près comme ça. J'ai un idéal, un fantasme, une image qui apparaît à peu près. Et je vais tout faire pour arriver à ça. Sauf que je sais depuis que je fais du dessin que j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à ça. Mais par contre, plus je vais tendre vers ça, plus ça va me faire découvrir des choses qui vont révéler ces éléments qui font ce fantasme. Et de toute façon, comme c'est un fantasme, si jamais j'approche ce que j'ai dans la tête, c'est que ce que j'ai dans la tête n'était pas suffisamment poussé, puisque j'y arrive. Donc ça veut dire que c'était déjà construit dans ma tête. Or, une fois qu'un dessin est fini, il montre bien qu'on est arrivé à faire quelque chose que l'on n'arrivait pas à faire avant et qu'on arrive maintenant à faire. Donc en restant dans cette logique-là, quand on aborde en plus, quand il y a la couche supplémentaire du fait de dessiner quelque chose, mais d'après l'univers d'un auteur, ça rajoute encore une couche. C'est ça que ça. Et là, j'ai envie de dire, il y a un peu tous les profils sont possibles. J'aime bien le côté défi de se dire, bah voilà, je vais partir là-dedans, mais je vais essayer de viser quelque chose que je n'ai pas encore fait, ou que je n'ai pas encore vu, ou que je n'ai pas encore cherché. Mais cette recherche, ce n'est pas histoire de se faire un défi gratuitement comme ça, juste pour se créer un défi. C'est que généralement, quand on lit le texte d'un auteur, bah, l'auteur il va lever des choses parce qu'il a sa propre façon de penser, qui, ne correspondant pas à la mienne, va fatalement m'évoquer des choses que je n'ai pas encore abordées. Même sur un auteur que je connais, hein, que j'ai déjà lu, mais ça... Et puis c'est un auteur de littérature, donc fatalement, ce qu'il fait en littérature n'est pas transposable stricto sensu en illustration, donc il va y avoir fatalement une adaptation, et ne serait-ce que cette démarche d'adaptation fait que ça... Voilà, ça doit être un tant soit peu transcendé, et puis... Donc ça se fait, et c'est ce que tu disais, ça se fait avec le temps, par toutes ces couches aussi. Et ce sont des constructions qui peuvent être super longues, oui. Mais il y a quelquefois, on peut avoir une certitude sur un cadrage, on peut avoir une certitude sur une lumière ou sur les éléments à mettre dedans, mais quelquefois ça a du mal à fonctionner. Il faut parfois plusieurs jours avant d'y arriver. Ou ça peut tomber en 2 heures. Il y a... Quelquefois, même avec la même masse de détails, quelque chose peut être fait en une demi-journée, et puis on peut passer une semaine dessus et avoir fait une image même moins bonne. Il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y a pas de règle.
C'est vrai que chaque dessin est un peu un nouveau challenge, quoi, en fait, en fonction du texte à illustrer, mais je dirais au-delà du texte à illustrer, c'est aussi chaque dessin simplement. Moi, sur le processus, en fait, c'est vrai que... Au départ, ça m'est souvent arrivé que ce soit laborieux, en fait, malgré la superbe image que j'avais dans la tête. Et au bout de quelques heures ou de quelques jours, j'attends le déclic où là, je vais réellement prendre du plaisir et je me dis, ça y est, je le tiens, quoi, en fait. Je me souviens parfaitement de ce moment, tu vois, sur la couverture de l'anthologie, en fait. C'était une vraie question, en fait. Je ne sais plus combien il y a d'auteurs, mais donc réunir plein de textes différents et savoir quel type d'image, en fait, sortir, en plus avec la collaboration... avec les dessins, et c'est vrai que le coup des tatouages, une fois qu'il m'est apparu, je me suis dit, bon, ça c'est le bon truc, quoi. Après c'est une mise en couleur, c'est les lumières, comme tu dis, effectivement, tu peux avoir envie d'une ambiance, et puis essayer d'y tendre au maximum, en fait. Et moi je me souviens par exemple à l'époque sur des textes de Robert Howard, ou d'autres, où bon, il y a quelques textes où quand même je me faisais un peu chier à mourir, quand même, hein, où, texte et tu dis putain, il n'y a rien qui résonne, et je me souviens consciemment de m'être dit, mais qu'est-ce que toi tu as envie de dessiner en ce moment, en fait, et comment tu vas trouver le challenge de réunir ça et de faire le lien avec le bouquin en question. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques images effectivement qui correspondent des fois pas tellement au texte en question, mais qui marchent quand même dans la couverture, en fait. L'idée c'est d'amener quelque chose qui va transcender le texte pour en faire un objet un peu plus que le simple texte, en fait. Et quand j'ai la chance d'avoir le retour des auteurs, du coup, c'est là que je m'aperçois que ouais, le un petit peu plus, il a marché, puisque l'auteur, c'est le premier spectateur de l'illustration. Et moi, c'est pas sans me dire c'est pour lui que je vais le faire, mais les auteurs que je connais, j'ai juste envie, c'est les surprendre, et c'est voir la tête qu'ils vont faire quand ils vont découvrir le livre. Et souvent, c'est une bonne surprise. Il y a quelques psychopathes avec qui ça s'est mal passé, et donc c'était une mauvaise surprise, mais je pense que c'était pas forcément mon travail, quoi. L'auteur elle-même.
On est pas loin de
non, mais elle est plus dans le circuit, par exemple.
Ah d'accord, c'est bon.
Ah bon. Donc il va falloir que tu rappelles la question. Oui.
Salut Pascal.
Oui, alors.
Bonjour Pascal.
Bon, je suis vraiment désolé d'être en retard.
Rapidement, deux mots sur ton parcours. Tu as fait les Beaux-Arts?
Oui, alors moi j'ai un parcours assez traditionnel dans l'idée traditionnelle. Là, c'est mieux.
Non, mais ton parcours, tu viens à la bibliothèque.
Ouais, exactement.
Voilà, c'est ça. Merci.
Un peu moins d'un kilomètre. Non, j'ai un parcours tout à fait traditionnel, c'est-à-dire, j'ai été, à l'époque, il n'y avait pas de formation numérique ou 3D, etc. Donc j'ai eu un parcours, je dirais, peut-être le moins cher possible, c'est-à-dire les Beaux-Arts. Voilà. Et ensuite, je me suis assez vite tourné... l'envie de faire des images, en fait, plusieurs envies autour de ça. C'est-à-dire, le dessin animé, pour moi, c'était, j'ai commencé par le dessin animé. Je suis allé faire un petit tour chez Disney France Animation quand ça existait. Des révélations aussi, alors je ne cache pas, deux ans, il y avait monsieur, pour moi, qui reste un monsieur quand même, Cazard. C'est avec lui ou en voyant les couves de bouquins, bah, ça m'a donné envie en fait d'en faire aussi, quand même. Bon, Nicolas est là, effectivement, je pense que c'est en partie aussi pourquoi je fais ce métier. Il y a plein d'inspirations. Et à un moment donné, j'aimais bien la littérature de science-fiction et fantastique. C'est-à-dire que c'est toujours un petit peu ça, ma porte de motivation. C'est-à-dire que soit c'est des auteurs assez sombres et fantastiques, ou alors des choses qui sont plus fantaisistes, mais quand même tournées un petit peu sur la science-fiction. Il y a un auteur qui m'a beaucoup plu, c'est Jack Vance, à une certaine période, parce qu'il y a un côté très exotique. Je suis moins science-fiction, un petit peu high-tech, etc. Donc c'est moins ma tasse de thé, quoi. Voilà, qu'est-ce que je dois dire d'autre?
C'est pas mal déjà.
Bon, ok, c'est déjà beaucoup trop en fait.
Non, pas du tout. Tu viens me dire SF fantastique, donc ça répond à la deuxième question qu'on a explorée, donc tu vois. Bravo. Et donc on était à. C'était quoi ma question?
Alors là, c'est à la quatrième question.
Oui, c'est ça. Tu vois bien que j'ai pas de liste. Qu'est-ce que je vous ai posé comme question?
Sur le rapport.
Non, mais vas-y, parce que ton interprétation m'intéresse.
Oula, oui, mais je vais déformer.
Non.
Non, bah, ça y est, je l'ai perdu.
Ah, bah, c'est ça à quoi que je vous pose.
C'était
le rapport qu'on a par rapport à l'administration, par rapport à un texte.
L'apport que vous y faites, vous, de vos images personnelles.
Qu'est-ce que tu investis? Est-ce que tu as l'impression de plus investir, toi, de tes tripes sur le travail de l'auteur, ou est-ce que tu as plus l'impression d'être juste au service du...
Effectivement, ça dépend en fait des textes. Enfin, moi, il y a des textes qui sont assez lourds, qui sont écrits avec beaucoup de descriptions. Donc là, on est un petit peu coincé quelque part, donc c'est très difficile de pouvoir émerger une image comme ça, un peu synthétique. Donc ça, c'est... Et puis il y a des textes où il y a juste quelques descriptions, et là, ça donne libre cours en fait à notre interprétation, comme le lecteur pourrait l'avoir en lisant le texte en fait. Donc on a forcément, quand je lis des textes, des images comme ça qui viennent, qui sont pas forcément les bonnes. Donc ça, je les écarte un peu, et puis ensuite je travaille sur effectivement une image qui soit comme un espèce de flash, mais des fois je suis même plus sûr que l'écrivain, enfin l'auteur, ait décrit cette image. J'ai un doute à un moment donné. Bon voilà, ça c'est une chose, c'est un peu particulier, je saurais pas trop l'expliquer. Et puis après, moi je suis très sensible à la musique des mots, la description qui n'est pas forcément très imagée, l'espèce de musique en fait entre les lignes quelque part, hein, pour être un peu abstrait. Et moi ça m'évoque des couleurs, un peu comme la musique par exemple. Là je vais aller chercher des gammes colorées qui... Moi je ne peux pas faire une même gamme colorée d'un auteur à l'autre. Voilà.
Bon. Le micro, ça c'est la punition pour être arrivé en retard. On en a une spéciale pour toi. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre l'illustration et la peinture? L'art avec un grand A. Toi qui illustres en digital, qui pars à l'unique, qui reviens un peu sur les classiques aussi depuis quelques
l'artiste,
temps.
L'illustrateur quand même est au service un petit peu des auteurs, je dirais. L'artiste, il fait un petit peu ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut forcément faire appel aussi à un moment donné à un auteur qui va donner une architecture ou une ligne conductrice à son travail. Mais généralement, l'artiste, en général, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui doit dicter ses propres règles. Après, il peut s'inspirer d'auteurs ou pas, etc. Mais l'illustrateur, en général, il doit essayer de faire corps au maximum avec ce que nous donne à voir l'auteur. Moi, je situe ça comme ça. C'est-à-dire que je mets mon ego un petit peu. Alors, forcément, je pense que c'est pas possible. Alors, on a des centres d'intérêt, hein, comme un artiste. Donc, du coup, il y a quand même des résonances, en fait, entre tous les dessins, je trouve, qu'on fait. Enfin, qu'à un moment donné, il y a notre vision à nous qui aussi est importante, qui transpire, forcément. Je n'ai pas répondu à la question.
Si. Enfin, grande partie, si, je trouve que c'était pas mal. Ouais. Par contre, tu confirmes que ma question n'était pas si bizarre qu'elle en avait l'air. Est-ce que tu as bien reséparé l'illustrateur et l'artiste? Donc c'est bien deux métiers différents.
Après, ça dépend en quelle démarche. Par exemple, si tu as une démarche d'illustrateur en tant qu'auteur, pour moi, tu as vraiment une démarche d'artiste. Si tu décides, je ne sais pas, de travailler sur un auteur particulier, et tu fais comme une espèce de revisite. Tu revisites en fait comme s'il avait écrit un autre texte qui n'est pas vraiment le texte qu'il a écrit. Tu fais un travail, tu peux faire un travail d'illustrateur qui est un travail d'artiste, parce que c'est une démarche originale. Voilà, bon, après, est-ce qu'il y a une est-ce que tu veux parler de l'art mineur, de l'art
Oui, c'était un peu le.
Ah ouais, bon, moi j'en fais aucune.
C'est très bien.
Quand on voit des artistes comme Kid B, par exemple, qui est devenu l'illustrateur officiel de Pratchett, il a sa propre patte qui a transcendé le texte lui-même. Et maintenant, effectivement, il se base sur l'œuvre d'eux, mais pas vraiment, plus vraiment sur le texte. Puisque, voilà, quand il peut dessiner même Messire du temps en train de faire du surf, ça sera quand même sur le disque monde, c'est obligatoire. Parce que le personnage.
Mais ce sera au bord, par contre.
Ce sera au bord. Voilà, le personnage lui-même est devenu vivant sous son crayon. Quand il fait maintenant, il fait des sculptures qui sont magnifiques. Il a fait, je crois, une série de quatre tests de bustes de Pratchett, justement, pour qu'il y en ait un qui soit choisi. Enfin, c'est un artiste complet aussi, et il se sert du monde et non plus du texte. Et quasiment même, il commence même à travailler sur ses propres. Voilà, il était parti sur la base du monde, mais maintenant en fait, il travaille sur le monde graphique qu'il a créé autour du monde de Pratchett. Et il y a beaucoup d'illustrateurs qui tournent aussi comme ça, quand il y a des illustrateurs dits officiels. Il y a beaucoup de choses aussi qui finissent par s'auto-digérer, si on peut dire. Mais ça reste quand même vachement bien.
Moi, je pense que oui, c'est une bonne question, mais c'est. Je pense que peut-être qu'en y répondant, il faudrait essayer de se détacher de ce qu'on nous a inculqué, en fait. Parce qu'en France, on a un vrai problème sur l'art. L'art contemporain, l'art illustratif, enfin l'art figuratif et autres, c'est quand même un bourrage de crâne dû aux galeries et aux musées. Tous les marchés ne fonctionnent pas de la même manière. Quand on prend un Dave McKean, par exemple, qui est un artiste immense, il est quand même illustrateur. Et je pense que la démarche artistique, finalement, c'est plus un comportement de vie que finalement ce qu'il en ressort en termes de produits finis. Et je pense qu'on se fait complètement enfler sur cette question, en fait. Parce que, par exemple, pour la petite histoire, donc Chris Foss, qui était venu exposer donc, aux Utopias il y a quelques années, Chris Foss, donc grand illustrateur des années 70, qui a travaillé sur plein de bouquins, sur tous les films et autres en science-fiction, avait fait une image d'un vaisseau qui arrive en approche d'un astéroïde, en fait, donc un petit format, l'aérographe magnifique, qu'il a dû vendre à l'époque peut-être l'équivalent de 700 euros pour la couverture. Et en fait, elle a été reproduite en grand format par un artiste, entre guillemets, contemporain, dont la démarche est la recopie, en fait. Et elle a été reproduite exactement, au très près, quoi, en fait. Et le gars l'a vendu 700 ou 800 1000 euros, quoi. Et Chris Foss lui dit mais qu'est-ce que je m'en fous, j'ai vendu mon image, je vais pas m'emmerder à l'attaquer. Et de toute façon, il aurait perdu son procès, parce que même si on est dans le pays des droits d'auteur, on est dans le pays, disons, de l'INPI et puis de la protection des droits, Mais c'est un gros bluff, parce que il suffit que le mec dise « mais moi, ma démarche est de copier pour que ce soit validé ». Donc il y a vraiment, une belle escroquerie autour de tout ça. Et effectivement, moi je pense que la démarche illustratrice ou artistique, en fait, c'est quand même la même, parce que c'est un comportement de vie. Et lorsque Basquiat travaille sur un environnement urbain, ou même un Soulage, quoi, quand il peint un noir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans la tête, en fait. Peut-être qu'il est juste en train d'illustrer sa pensée. Donc dans ce cas-là, c'est quand même une illustration. C'est pas de l'art à la Pollock où on va faire un travail sur le geste ou des choses comme ça. Il y a des différences là-dessus. Et du coup, moi, j'ai quand même l'impression que ça fait partie d'une grande famille de créateurs. Ouais. Et trouver la différence entre le gars qui écrit des paroles d'une chanson ou le gars qui écrit un livre, putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Ouais. Parce que dans leur propre vie, c'est quand même deux artistes.
Je vais même essayer de pousser encore plus ton propos. Moi, cette distinction entre art majeur, art mineur, et l'illustration, est-ce que c'est de l'art, est-ce qu'on est des artistes, des auteurs, des machins, ça me gonfle profondément, parce que les démarches cérébrales sont exactement les mêmes, sauf que les médias ne sont pas les mêmes. Et comme ils ne sont pas les mêmes, on a des syndromes stupides qui consistent à dire que un bon illustrateur, c'est finalement, quand il est un hobby, c'est qu'on peut l'exposer, non, pas forcément. Justement, ce qu'on n'a pas compris, en fait, c'est que le médium crée sa propre mise en abîme. Je m'explique. Une peinture, elle est faite pour avoir une perception de la matière, de la lumière sur cette œuvre-là. Il y a un rapport de la distance de la personne qui regarde le tableau au tableau lui-même. Il y a une dimension aussi dans le fait d'avoir plusieurs œuvres, plusieurs peintures, et du fait d'avoir à déambuler dedans et de voir la façon dont ça s'organise, donc une idée de scénographie de tout ça. Bon, l'illustration, c'est pas ça. C'est tout, c'est pas ça. Donc il y a des illustrations qui peuvent être des peintures qui peuvent être des illustrations, mais ce sont malgré tout, dans leur médium, dans la façon de les travailler, des choses radicalement différentes. Par contre, la pensée de l'artiste, qu'il soit illustrateur ou peintre, ça, il n'y a pas de problème. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'illustration, elle est faite, elle a été conçue pour être reproduite. Et de se dire aussi que cette image-là, en dehors de l'acte commercial qui est de la présenter en tête de gondole pour arriver à mieux vendre tel ou tel truc, parce que la couverture est peut-être un peu plus ocre que rose, ou voilà, ça on n'en a rien à faire, il n'est pas là le problème. Mais que l'image, quel que soit le format à laquelle elle a été réalisée dans l'atelier de l'illustrateur, elle va finir à tel format sur un livre. Et ce livre, il va être tiré à tant d'exemplaires, il va être présenté comme ci et comme ça, il va être monté graphiquement comme ça, il va y avoir du texte aussi dessus, il va y avoir un certain nombre d'interventions. C'est une autre démarche. Et encore là, on parle que des couvertures, mais l'illustration intérieure, c'est encore un autre univers. Il y a tout un... Moi, je différencie vraiment le travail d'illustration de couverture et l'illustration intérieure. Ça n'a rien à voir. Et là, ce serait comme d'aller dire ou d'aller provoquer un Gustave Doré en disant que c'est un artiste mineur, sous prétexte qu'il était plus illustrateur que peintre, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Et voilà, ce sont des débats sans fin et complètement stériles pour le coup. Alors par contre, on a une pensée, alors je trouve ça assez spécifique à la France, qui est très sclérosante là-dessus, parce qu'on n'arrive pas à mesurer la qualité de travail de tous ceux qui sont dans les arts graphiques, en règle générale, mais qui couvrent l'illustration, le graphisme. Et moi, ce sont des distinctions qui m'énervent vraiment, parce qu'il n'y a pas... c'est pas parce qu'on représente du figuratif qu'on n'est pas complètement perché dans sa tête. Et inversement. C'est-à-dire que celui qui est très perché dans une exposition, moi, quelquefois, ça me gonfle profondément, parce qu'il n'y a pas forcément... C'est pas tant le degré d'abstraction auquel il emmène son travail, c'est le degré d'empathie qu'il peut avoir avec son public. C'est-à-dire ta propre capacité, toi, en tant que spectateur, de partager le travail de quelqu'un. Alors que ce soit abstrait ou figuratif, je m'en fous. Le tout, c'est que ce soit fait quand même de façon à ce que ce soit montrable. Et alors ça, c'est valable pour l'illustration comme pour la peinture.
Il y a des maisons d'édition qui utilisent des peintures classiques en couverture, que ce soit du Bosch, que ce soit du...
Du Bosch, c'est des poches.
Eh oui.
Voilà. Et bon, ça peut être le Jardin des Délices, ça peut être plein de choses, mais c'est quelque chose qui est là aussi. Bosch ou même enfin, tous les peintres classiques symbolistes, ce sont des illustrateurs, puisqu'ils se basent sur la Bible, sur telle légende, sur telle scie, etc. Ce sont des illustrateurs en tant que tels.
Alors, je vais arrêter de le dire tout de suite, et mettre les pieds dans le plat, parce que vous ne connaissez pas tous, mais ça va, vous allez vite comprendre où je vais en venir. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que ça ne coûte rien.
Oui,
ça évite de payer un illustrateur, hein, voilà,
oui,
quand même.
Oui, oui, oui.
Rappelons-le, bah, en plus, carrément.
Et les droits d'auteur, etc.
Ouais, ouais. Donc, ça peut...
Oui, non, moi je voulais juste rajouter que entre peinture, illustration, de toute façon, enfin moi ce qui m'intéresse c'est de produire des images, d'accord, et de faire parcourir les gens, évader peut-être les gens, enfin les emmener, leur prendre la main, les emmener vers un univers. Donc il faut aussi en tant que spectateur vouloir, c'est pour ça qu'en art contemporain des fois la cassure est brutale, c'est-à-dire qu'on n'emmène pas les gens. Donc du coup, il n'y a rien qui se passe en fait, et on ressort, on dit bon, ok. Donc c'est bien aussi ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de produire des images, de prendre les gens, de les emmener, s'ils veulent bien, dans cet univers. Enfin, Nicolas fait de la BD, etc. Je prends de la bande dessinée. Au combien on dit que c'est un art mineur, mais toujours est-il que moi, quand j'ai une BD, je suis embarqué, je vais en voyage avec cet auteur-là, et je m'évade comme on lit un livre. Sauf que nous, on est ou peintre, ou sculpteur, ou illustrateur, on produit des images. Donc si on fait bien les choses, du mieux qu'on puisse faire, on emmène les gens vers un ailleurs, vers quelque chose qui sort du quotidien. Moi, c'est ça qui m'importe. Après, qu'on soit peintre, illustrateur, peintre connu, illustrateur mineur, ou je sais plus, c'est vrai que c'est gonflant. Et puis à la rigueur, on s'en fout. Et puis après, il y a un autre truc, c'est-à-dire que du moment que notre image n'est pas passée devant une salle des ventes, par exemple, d'accord, bah, on pourrait penser en France, bah, on n'est pas connu, on n'est pas forcément très talentueux, d'accord, alors que ça aussi, c'est une vraie connerie. C'est, on ne juge pas sur forcément les ventes, c'est sur la qualité d'image, et c'est ça qui importe. Donc voilà, au moins on garde une légitimité, si je peux dire.
C'est difficile, la qualité d'image, c'est difficile. L'art est difficile.
Et, ouais, et
je vais vas-y,
juger.
J'essaie juste de ne pas perdre mon film.
Ouais, ouais, excuse-moi.
Non, mais ne t'en fais pas, tout va bien.
Ouais, même là-dessus, j'ai envie de dire, même sur la notion d'art, t'as cité le bon mot, c'est le terme de recherche. Je trouve que si on n'a pas la volonté de chercher, c'est-à-dire d'aller vers des choses que l'on n'a pas encore faites, bah, ça, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose de le faire. Donc que ce soit de l'illustration, de la peinture,
ça, c'est une démarche artistique.
Ou des mathématiques, c'est-à-dire toutes les sciences fondamentales sont là pour le dire.
Musique.
Elles ont... Musique, pareil, tout ça est dans le même intérêt, c'est la recherche fondamentale.
Voilà,
et y a, moi, je crois que le c'est plus cérébral et un niveau plus. Mais, enfin, cérébral ou sensible, ou les deux, au sens juste fonctionnement du cerveau, d'arriver à le triturer suffisamment loin pour arriver à produire des choses qui n'étaient pas produites la veille. Voilà.
C'est ça, pour ça, c'est pour ça que dans le travail d'un illustrateur, c'est vraiment d'avoir une démarche. Et le fait de reprendre, alors le Jardin des Délices, etc., je trouve ça très bien. Mais c'est un raccourci très facile. C'est sûr que c'est plus compliqué d'appeler un illustrateur et dire voilà, qu'est-ce que tu nous proposes, qu'est-ce que tu pourrais faire en partant de ce texte-là. Là, il y a une vraie démarche artistique. Donc, ouais. C'est vrai qu'il y a des maisons d'édition qui n'ont pas ça dans le sang et qui n'ont pas envie de faire cette démarche artistique, en fait, de recherche.
Alors, parlons un peu des maisons d'édition.
Oui, nous parlons des maisons d'édition. J'y vais. Je veux juste souligner un truc tout à l'heure. Dans tout ce que vous venez de dire là, sur les 10 minutes qui viennent de s'écouler, vous avez en fait le même discours que les écrivains que vous illustrez quand il s'agit de littérature de genre.
Différence
illustration art mineur, art majeur, littérature de gare, para-littérature.
Ouais.
Vous êtes bien trouvés en fait.
Ouais.
Moi, je voulais rebondir sur, ce que disait.
On parlera de l'éditeur après.
Oui, récupérer une peinture classique pour illustrer un roman, effectivement, ça peut être facile. Par contre, il y a aussi un.
Pour faire un choix, mais dans la
facilité, même si c'est pas si facile que ça, honnêtement, il y a aussi la tendance actuelle d'avoir recours non plus à une illustration graphique, visuelle, peinte, etc., mais simplement une illustration type infographie, enfin, c'est pas ce que je veux dire, hein, plus graphique, voilà, une illustration graphique plus que picturale.
Des fois ça se justifie
quand on voit par exemple les illustrations pour enfin les couvertures plutôt, là en parlant juste de couvertures pour des séries comme L'Épouvanteur, où en fait c'est la jaquette, la couverture est très très simple, c'est un simili cuir, c'est des simili ferrures et juste un logo qui change pour chaque tome, c'est très simple visuellement, mais ça permet aussi d'avoir du point de vue de l'éditeur, c'est plus facile, c'est moins cher. On a une variation de couleur et une variation de couleur et juste le travail de quelqu'un qui va travailler sur un logo.
C'est une icône, ouais.
Voilà, c'est une icône, c'est plus simple, ça permet d'avoir un truc facile, d'être payé pour t'en payes 10 pour le prix d'une couverture peinte. C'est ça aussi, et l'évolution aussi des technologies fait que comme il y a au 19e tout le monde pouvait être auteur parce que les maisons d'édition, les imprimeries étaient plus faciles à avoir, maintenant grâce à internet et à la technologie tout le monde peut être graphiste.
Tout le monde peut être auteur aussi, grâce à l'auto-édition.
Moi, tout le monde peut être graphiste, j'ai pas dit avec la qualité.
J'ai pas dit la même chose pour l'auto-édition non plus.
Non, moi, ce qui me gêne, c'est pas forcément parce que il y a des modes au niveau des couvertures, au niveau de la publicité, au niveau de tout ce qu'on avale, et tout ce qu'on nous fait avaler. Il y a quand même des modes. Donc c'est vrai que l'aspect graphique des couvertures, c'est vrai qu'on le sent depuis quelques années. Ça me gêne pas parce que il y a quand même une recherche, il y a quand même un gars qui a travaillé dessus. On n'a pas eu la même formation, c'est tout, tu vois. Et puis il y a quand même une démarche. Moi, ce qui me gêne un peu plus, alors de la part des éditeurs, parce qu'en fait, ils essaient de segmenter les différentes activités, et généralement, il n'y en a pas un qui sait de quoi on parle en général. Enfin, il n'y en a pas un qui peut parler du livre de A à Z dans la même maison d'édition. Il est assez rare, celui-là. Il doit exister, il existe souvent dans les petites maisons d'édition.
Voilà, j'allais te dire, tu fais une différence entre les grosses et les petites maisons.
Bien sûr. Mais voilà, dans les petites ça existe un peu plus. Mais et donc vu qu'un directeur littéraire, quel qu'il soit, n'a pas de formation graphique, et que de toute façon en France on n'a aucune éducation graphique, on ne sait pas pourquoi les bâtiments sont gris, on ne sait pas pourquoi telle couleur va influencer une telle population. Bien, heureusement qu'on ne nous l'apprend pas, sinon je pense qu'on bougerait encore un peu plus. Mais donc les éditeurs n'ayant pas cette formation, ils vont te donner un texte à illustrer, donc toi tu vas faire un petit peu comme tu peux. Quand la couverture est validée, tant mieux, tu te dis c'est cool, ça a plu au gars. Mais en fait, ce qui lui a plu, c'est juste que la couverture a correspondu à sa culture de base, en fait. Puisque lui, il n'a pas de formation graphique. Et quand il a une formation graphique, parce que ça m'est quand même arrivé, c'était juste croustillant, tu vois, par exemple, parce que tu as très peu de directeurs artistiques officiellement formés dans les petites ou même grandes maisons d'édition, et quand tu en as un, j'avais juste halluciné, par exemple France Loisirs, la directrice de collection de France Loisirs qui passait des commandes donc des illustrateurs, avec qui j'ai longtemps travaillé sur Robin Hobb à l'époque et des choses comme ça, avait sur sa carte de visite responsable des couvertures. Waouh, j'avais trouvé ça juste génial. Je me disais, putain, j'ai enfin trouvé la perle rare, quoi. Elle a été formée graphiquement, elle sait de quoi on va parler. Donc on fait des croquis, on fait des longues, j'ai dû en faire une dizaine avec eux. Et puis une fois une anecdote, un croquis validé, puis l'illustration tombe sur leur logo, donc elle me fait tout refaire. Puis je lui dis, mais pourtant l'héroïne, elle correspond à ce que je vous ai dessiné, il n'y a pas de souci. Ah ouais, mais je ne lis pas les livres. Tu sais, là, tu as un grand moment de solitude. Tu dis quand même, c'est la seule qui a une formation graphique, et elle, par contre, elle ne lit pas les bouquins. Alors tous les autres, ils lisent les bouquins, mais ils n'ont pas la formation graphique, et elle, qui te disent ils lisent pas les bouquins. Donc là, tu sais plus à qui parler, quoi, en fait, effectivement. Et puis après, voilà, après sur les maisons, moi, ce qui m'afflige toujours, c'est que on a beau parler de journée de droit de la femme, par exemple, pour parler que de ça. Et puis, de temps en temps, il te ressort toujours une collection qui a eu la méga géniale idée de refaire les couvertures en te remettant la bombe pulpeuse en couverture parce que ça va faire vendre et que ça va chatouiller la libido de l'ado, tu vois. Moi, j'ai revu les couvertures de Botero, par exemple, chez Rajo. Putain, j'étais affligé, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il doit se retourner dans sa tombe. Mais voilà. Et voilà. Merci les éditeurs.
Mais... j'allais, je la gardais peut-être pour la fin, mais je la gardais plutôt pour la fin, mais ça, j'enchaîne du coup immédiatement. Il y a une illustration, il y a une ou plusieurs illustrations dont vous n'êtes pas fier particulièrement, mais qui a été validée dans ce genre de circonstances. Vous n'êtes pas obligé de citer un titre ou un éditeur ou.
Voilà. Si, ouais.
C'est très indiscret.
Si, oui, ben, il y a, en plus, il y a plusieurs situations. Il y a des fois où on se gaufre. Donc on fait, bah voilà, on n'est pas, au mieux de son boulot, on est très loin de son fantasme ce jour-là. Ça arrive. Ça arrive. Ce qui arrive souvent, malheureusement, je ne veux pas trop jeter la pierre sur les éditeurs non plus, parce qu'ils ils prennent cher quand même. Ils prennent cher, mais là c'est Hachette pour le coup. C'est vraiment des sagouins. Et sur les couvertures, en fait, ce qui généralement bousille l'image, c'est quand on te la fait refaire 4-5 fois. Alors 4-5 fois, pas entièrement, mais c'est à chaque fois des bouts où au bout des trois quarts de l'image, ils ont une idée géniale qui fait qu'il faut tout bouger. Moi, la série Cauchemar, c'était Frère des loups. Et ça a été un cauchemar. Alors c'est un double cauchemar parce qu'en plus ils avaient un gros plan marketing, parce que c'était déjà un plan marketing américain. Ils voulaient rebondir sur le plan marketing américain. Et pour ce faire, le plan, je l'ai eu par un copain, Franck Achard, qui fait le graphisme de l'intégralité des livres sur lesquels j'ai bossé. Et qui lui a hérité de ça pour avoir la direction artistique. Parce que c'était une série, on savait que c'était en 5 ou 6 tomes. Et il y avait juste deux livres qui existaient. Donc en plus, t'appelais Hachette, tirait des plans sur la comète, sur une série qui était censée bien se vendre aux États-Unis, qui n'en était qu'à son deuxième volume. Mais ils avaient tout le plan marketing. Et donc Franck a fait tout un travail de mise en place de tous les éléments graphiques, plus de l'illustration. Donc il y avait plein... Voilà, il y avait plein de petites choses délicates, de placement, enfin tout était calculé au millimètre et tout. Ils sont évidemment rentrés dans le tas de tout ça pendant tout le travail. J'ai réalisé la première illustration, ça a dû être refusé 3 fois à peu près. Alors à la fin, ça s'est fini avec une pauvre tête de loup en premier plan, immonde, et voilà. C'est pathétique. Enfin, tu t'embourbes dans quelque chose. Donc en fait, il y a des couvertures dont on n'est pas fier. Mais en fait, le plus possible, j'essaye d'éviter qu'à tout jamais je refasse des saloperies comme ça. Par anticipation, de me dire, bah voilà, maintenant avec l'expérience, tu sais que si tu t'embarques là-dedans, il y a potentiellement de la mauvaise image qui va sortir. Et ça, voilà, c'est surtout ça, ce genre de choses que j'essaie d'éviter. Mais ça devient vite des plans pièges, et puis on ne peut pas s'en sortir, parce qu'on est quand même redevable auprès de l'éditeur de lui finir la couverture, et puis il faut la faire. Et quelque part, que ce soit moi qui la rate ou un autre, ça va être le même calvaire. Donc, que ce soit un autre, bon, ben, si je suis dedans, je suis dedans jusqu'au bout. Et puis voir, l'éditeur demande une couve alternative à un autre dessinateur, hein, s'il ne la veut vraiment
pas. C'est beau ce sacrifice que tu fais pour pas emmerder d'autres illustrateurs.
Ben, y a des moments, enfin c'est violent quand même.
Hein. Parce que j'ai assisté une fois à un petit concours, j'étais au bout de la table je crois, entre auteurs, sur celui qui avait eu la couve la plus moche.
Ouais.
Voilà, c'est toujours un petit moment d'allure.
Oui, ben oui.
Gilles, tu...
Tu veux que je donne des noms sur celui qui j'ai fait la couverture la plus moche?
Non, tu n'es pas obligé de citer des noms. Non, ça t'est arrivé, j'imagine.
Ce dont je suis fier, oui, quand même un petit peu, c'est mon travail avec Ayerdal et avec Duniac essentiellement, puisque c'est les deux auteurs qui ont orienté ma carrière, et puis vu que je suis en fait de carrière, c'est quand même ceux qui m'auront marqué, effectivement. Mais bref, après, il y a des anecdotes assez. Ouais, par exemple, avec l'Atalante, quand Pierre Michaud s'occupait des couvertures. Par exemple, je me souviens d'un texte, il y avait trois volumes assez importants. Il me dit, écoute Gilles, je te laisse carte blanche, parce que voilà, moi c'est vrai que j'aime pas travailler en proposant des croquis, donc souvent les autres, je travaille souvent plus avec les auteurs qu'avec les éditeurs. Je fais souvent l'illustration terminée en fait, directement, en croisant les doigts. Et pour l'instant ça passe. Mais cette fois-là, donc il me demande quand même des croquis, il me dit je te laisse carte blanche, mais j'aimerais qu'on retrouve en couverture la complexité du roman. Ok, je commence à lire le roman, je ne me souviens plus exactement du titre, mais c'était un américain, je ne sais plus. Et c'était Matrix sous acide, vraiment. Un truc d'univers dans un univers avec des illusions, avec des transformistes, enfin, tu vois, au niveau corporel, c'était le gars parlé, mais c'était pas lui finalement. Je me souviens de lire des passages à haute voix pour pouvoir comprendre de quoi ça parlait. Quoi. Et puis je lui prends les illustrations en question, forcément, et puis on s'est vautré sur les ventes. Et je lui dis, écoute, je crois qu'on s'est planté tous les deux là. T'aurais pas dû me laisser carte blanche, et puis t'aurais juste pas dû me dire de mettre la complexité du livre en couverture, quoi, parce que du coup, tu comprenais rien sur la couverture, et tu comprenais pas plus dans le bouquin. Quoi. Mais voilà, des petites choses comme ça, et c'est vrai que moi, je trouve que c'est important d'avoir une forte direction artistique, en fait. Moi, j'adore travailler sous la contrainte, en fait, avec des contraintes de format, avec des contraintes de timing, ça, encore plus. Mais quand c'est bien défini, quoi, en fait, quand c'est bien défini, pas ben, voilà, quand ça part en live, comme nous raconte Nicolas, ça arrive souvent, enfin en tous les cas régulièrement. Et puis c'est vrai que ben, moi sur les modifications, les mecs ils font pas signer, enfin moi à l'époque on signait les contrats au moment où je remettais l'illustration, par exemple, ce qui fait que les modifications sont pas payées, et puis à la fin on en a juste marre, on perd toute motivation.
Et j'en prends note pour l'avenir, forte direction artistique,
voilà,
contrainte de temps.
Moi, j'ai pas d'expérience dans la couverture, donc je passe.
On va y venir au dessin. Au dessin. J'ai dit illustration, donc vous avez honte. J'ai pas dit.
Ouais, alors là, c'est vrai que sur la couverture, enfin, on est lié au marketing. C'est-à-dire qu'on vient un petit peu acheter d'avoir par moment une volonté de la part de l'éditeur du DA, du directeur artistique de la maison d'édition, volonté de se démarquer des autres couvertures. Donc ça peut être juste une icône sur un fond, assez, voilà, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de personnage, etc. Donc, ça c'est une volonté, donc ça c'est assez frustrant, parce qu'on est très limité du coup. Mais c'est quand même amusant, parce que un logo, je trouve qu'on y trouve son intérêt en fait, aussi, graphique, par moment, parce que les contraintes sont tellement énormes. On se dit mais comment on va faire, donc moi je trouve ça amusant. Ça m'est arrivé sur une ou deux couves chez Bragelon par exemple, où on me demandait de faire juste une icône avec un 2-3 vis, enfin j'exagère, mais voilà, bon, c'était intéressant de proposer quelque chose d'autre, voilà. Alors des fois on y arrive, on n'y arrive pas, j'étais pas très content, mais c'est un exercice difficile. L'autre anecdote au niveau de la couve, c'est la position du titre. Donc ça, des fois, les graphistes, ça m'est arrivé, une autre maison d'édition, où c'était pas clairement statué, en fait, la position du titre, la grosseur du titre, la couleur du titre, etc. Je fais toute mon image, et puis en fait, l'éclairage, je le positionne en haut, moi, comme une toile, enfin, comme j'ai envie, finalement. Et puis là, bah, on me fait refaire parce que le fond en haut est trop clair par rapport au titrage. Donc là, on est obligé d'inverser, et du coup, c'est une toute autre image, en fait. Même si on a une dévalisation par ref, par exemple, j'envoie les refs, et puis, au bout d'un moment, puisque le problème du ref, c'est qu'en fait, soit on garde un style très ref tout au long de l'image, et les gens arrivent à s'y retrouver, soit, généralement, on demande un ref, c'est juste pour voir un peu, mais on aimerait en voir plus, en fait. On aimerait en voir, on aimerait voir l'image terminée, quoi. Donc, on termine l'image, et après, il faut la refaire, parce que, justement, le mec n'a pas pensé, dit « Ah, merde, c'est vrai que t'as un éclairage en haut, là, il faudrait tout polariser par le bas, par exemple. » Parce que moi, j'ai un titrage clair en haut, t'es gentil, mon garçon, mais... c'est compliqué, donc
c'est
voilà.
Ça, c'est une aquarelle, merci.
Alors, d'autant plus, si c'est en numérique, c'est encore possible et encore que, mais si c'est du traditionnel, c'est épouvantable. On part sur une autre image. Quoi.
Voilà, après, une petite anecdote, une petite quand même positive, c'est quand on a, comme tu as dit, effectivement, c'est que quand l'auteur nous dit bah, elle est super ton image, on ne connaît pas forcément l'auteur, on connaît son écrit, mais voilà, moi, c'est m'arrivé sur l'auteur Baxter, sur une série de couves chez Univers Pocket, où l'auteur m'a, j'ai reçu un mail de sa part en anglais qui disait c'est, Pascal, c'est génial, ta couve, c'est exactement ce que je voyais. Alors, ça, c'est ce que je voyais, enfin, ce que je pensais voir. Ou... Donc, ça, c'est une belle critique. Je trouve ça assez positif. Hein. C'est un peu rock'n'roll quand même. C'est lié au marketing, un peu la couverture. Donc, c'est là où on peut faire le parallèle avec le mec qui est devant sa toile et qui fait sa toile comme il a envie de le faire. Là, on a quand même des contraintes, soit aux incompétences des directeurs artistiques, souvent, où effectivement, il y a des directeurs artistiques qui ne connaissent pas le texte, ça m'est arrivé aussi récemment, où attends, je vais me renseigner, et je te rappelle.
Alors, tu vas le garder. Oui, parce que là, on a parlé des couvertures, parlons de l'intérieur. Voilà, c'est ce qui fait que tu n'es pas à ma place, mais à celle-là. Puisque tu viens de te livrer un exercice rigolo qui consiste à, dans une anthologie, illustrer 10 nouvelles différentes, d'auteurs différents. Enfin, oui, en même temps, c'est une anthologie, il vaut mieux que ce soit des auteurs et des nouvelles différentes. Parce que 10 fois le même texte, c'est moyen intéressant. Mais ça aurait pu être un exercice
au
rigolo.
De toute façon, ça peut être intéressant.
Voilà. C'est en plus avec des contraintes de temps. Donc c'est à toi que je redemande traduire la pensée d'un auteur en un seul dessin ou traduire ta vision de ce qu'il a écrit.
On est obligé de traduire sa vision. Voilà, comme disait Pascal, tu te retrouves avec un auteur anglais, américain, tu vas pas payer le voyage pour passer 2 jours à discuter avec lui pour savoir exactement ce qu'il voulait dire. Donc, faut faire un petit mix entre sa vision propre et une sorte de vision globale, comme je disais, l'inconscient collectif, en se disant qu'est-ce que les gens vont lire, qu'est-ce qu'ils vont voir, est-ce que si ou ça. Puis, il faut faire un petit mix entre les deux. Et sachant que malgré que tout le monde dise, voilà, là je reviens sur la couverture, on ne juge pas un livre à sa couverture.
Si.
Faut juste pas faut pas jeter le livre à cause de la couverture. Au niveau de l'illustration intérieure, donc là au niveau des textes, c'est vrai qu'on était parti sur la première question que j'avais posée, c'était où va se trouver l'illustration ? Avant le texte, au milieu du texte, après le texte. Et suivant justement comment c'est placé, on peut jouer dans l'évocation juste pour pas influencer le lecteur ou dans l'illustration où on peut se permettre une illustration pure histoire de fixer une image que le lecteur a déjà lue. C'est vrai que dans les 10 textes, il y en a qui ont été plus difficiles à illustrer que d'autres. Il y en a où l'image est mise tout de suite et c'était une image plus évocatrice. Parfois, voilà, oui, avec le loup ou avec les deux mains liées des chants du Mange Espoir. Et il y en a où j'ai pas réussi à faire une évocation parce que l'image qui me restait était tellement plus vivace, tellement plus prenante qu'il fallait que je la pose. Ça, c'était pour le texte de Cher à horloge. Et voilà, il faut liser le texte avant de regarder l'image. Science trop tard. Mais voilà, c'est des choses comme ça où ben, c'est plus simple parce que le texte est très beau, il est complexe. Et arriver à rendre cette idée-là en dessin, j'ai pas réussi. Donc je suis retourné à une facilité, si on peut dire, de faire une illustration d'un passage de texte. Et puis sinon, oui, non, c'est ça, c'est, il faut arriver à mixer ce qu'on pense qu'a voulu faire ou faire passer l'auteur, notre sensation, parce que ça reste quand même une création artistique, donc ça vient du cœur, même avant la technique, et sans vouloir influencer par ses propres images le lecteur, soit en simplement la facilité de fixer une image qui est déjà là. C'est vrai que au niveau de l'illustration, même au niveau de la couverture, c'est plus difficile parce que dans la BD, on impose son style graphique, on impose son univers. Et quand on veut illustrer de par l'illustration, de par la couverture, il faut arriver à laisser de la place au lecteur aussi. Et c'est très très délicat de pas imposer sa patte et de laisser le lecteur faire sa propre vie. C'est vrai que ensuite maintenant on a les adaptations au cinéma des romans, même si on dit, et c'est souvent vrai, que le roman est meilleur que le film, on se retrouve quand même, si on lit le livre après, avec les images des acteurs. On se retrouve avec, voilà, Harry Potter, c'est fini. La tête de Daniel Radcliffe, on est foutu. Même si les couvertures étaient très bien, la couverture justement un petit peu enfantine des premiers tomes allait bien parce que le trait était suffisamment diffus,
évanescent.
Voilà, évanescent, lâche, dans le terme d'un tissu lâche. Mais maintenant, voilà, Harry Potter, il est grillé. Hermione aussi, ben c'est fini. Ah, Hermione, maintenant, elle est black.
Ouais. C'est vrai, pardon. Il y a un peu de temps. Le temps efface pas mal des trucs, mais c'est vrai que Disney, par exemple, le film Disney, au pays des merveilles, c'est très difficile de.
Alors maintenant ça vieillit. Je pense que les jeunes générations ont peut-être pas vu le film, tant mieux, comme ça au moins ils sont pas pollués. Voilà.
Par le Disney.
Pollués entre autres, par ces images-là. Alors c'est valable aussi pour les films, les auteurs. On voit au cinéma maintenant. Je pense qu'au bout d'un moment, un certain temps, ça fait bien les choses et puis on peut ensuite réinscrire et réimprimer une patte différente. Mais ça, immanquablement, ouais, les Ghostbusters ont une force de puissance qui vont imposer ces images-là à tout le monde, fortement en fait. Plus fort que nous, en tant qu'illustrateurs.
Et le retour de ça, c'est qu'on se retrouve avec des classiques de je pense à iRobot par exemple, où on va se retrouver avec plus d'illustrations du coup, mais une photo du film. Et ça boucle la boucle.
Ah oui.
Vous vouliez rebondir sur.
Il n'y a que pour King Kong que pour les remakes, ils vont avoir du mal à se passer du sang.
Oui, ça peut. Bravo. un complément sur l'illustration d'intérieur. Ou est-ce qu'on laisse le public poser les questions, comme vous voulez. Ça fait 1h15 qu'on parle.
Oui, peut-être passer aux questions.
Nous vous en prions.
Et à messieurs. Oui, messieurs aussi.
Est-ce que vous avez des questions?
Avez-vous des questions?
Oui. Moi, je me demandais, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution dans la perception qu'on a des illustrateurs? Est-ce qu'on connaît mieux l'illustrateur maintenant? Est-ce qu'on les connaissait mieux avant?
Est-ce qu'on connaît mieux Toulouse-Lautrec ou Nicolas Fluctus?
Est-ce que c'est générationnel?
Il y a des périodes, il y a vraiment des périodes d'illustration. Il y a aussi des styles d'illustration. Moi, je sépare quand même vraiment l'illustration pour enfants. Et l'illustration adulte, l'illustration de genre, non, parce que finalement, nous, l'illustration de genre vient plutôt de l'illustration de conte et fantastique du 19e et du début 20e siècle. Après, non, il y a des périodes, moi j'aime beaucoup la période des Anglais du début 20e siècle. Il y a Rackham dedans, Rackham, Dulac, William Lees Robinson, Willy Pogany. Enfin voilà, il y en a quelques-uns qui travaillent un peu tout dans la même veine.
ils équivalent 30 ans après à ce qu'avaient été les peintres pré-raphaélites pour la peinture. Et eux, ils appliquent ça, mais bon, avec un autre mode de pensée, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et eux, ils ouvrent vraiment les portes, ils ouvrent vraiment les portes au fantastique contemporain. Donc, y a des... Alors, est-ce que ces gens étaient connus ? Oui, ils ont cartonné. À leur époque, on peut collectionner, il y avait des tirages limités, il y avait des tirés à part, il y avait des systèmes de tirés à part, de choses comme ça. Bon, Doré est une star. Doré est vraiment une star. Mais bon, on parle de Doré, on va moins connaître Tony Johanno, qui est un très grand illustrateur, mais qui finalement n'aura pas le... Bon, alors il est mort jeune, donc ça n'aide pas, mais par ailleurs, il y a des... Après, il y a des... Je pense que c'est plus des profils de personnes ou quelques mouvements dans l'histoire que de pouvoir faire des règles générales. Par exemple, en Suède, il y a Jon Bauer, qui est un illustrateur qui est mort jeune lui aussi, qui a dû mourir aux alentours de 35 ans, qui en fait, alors on ne le connaît pas comme ça, mais sauf que c'est lui qui a dessiné la façon dont on dessine le troll aujourd'hui. Il a fait ça en 1910. Donc il a fait des séries d'illustrations sur les contes, les mythes suédois. Donc Jon Bauer, ils ont peint de partout en Suède, ils font des copies, il y a des vrais faux, il y a des rééditions, il y a des trucs. Il y a eu des rééditions sur toutes les années 40, les années 50, les années 60, aujourd'hui encore. Et on ne lit jamais son nom, mais en fait, il y en a partout de ces images. Et vous avez sûrement vu ces gueules de trolls qui sont plutôt à gros pif, mais qui sont plutôt des blocs de pierre un peu partout dans la nature. Donc, qui correspondent vraiment à la pensée suédoise, mais qui correspondent à la vision qu'on se fait en fait des trolls. Et il n'y a pas eu beaucoup de révisions de ça. Ben, ce type, en fait, il est quand même ultra connu. Voilà, alors... Il n'a pas eu le temps de vivre assez longtemps pour qu'on le connaisse vraiment mondialement, mais je pense qu'il fait partie des gros auteurs qui étaient pas tout à fait du niveau de Rackham et du Lac, mais pas loin quand même, hein, qui est quand même dans cette lignée-là. Voilà.
Et maintenant, côté troll, on a Gilles Francescano.
Voilà.
Non, sur un sein du troll, je veux dire, on est dans cet esprit-là. Quoi. Je ne pensais pas à celui de Botero, mais à celui de Dugnac, qui est superbe.
Si on veut une évolution, si... Technologiquement, mais on imprime tellement plus de livres qu'il y a un siècle que les proportions sont radicalement différentes.
Et puis je pense que quand tu sous-entends illustrateur, tu parles aussi de ce que l'on perçoit aujourd'hui, de l'image sur le net aussi. Parce que depuis 20 ans, et je dirais l'explosion du jeu vidéo, autant au départ les illustrateurs utilisés dans le jeu vidéo avaient assez peu de perméabilité avec les autres domaines, mais alors qu'aujourd'hui ça tire tous azimuts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu tapes illustrateur, t'es mort quoi. Enfin, sur internet, c'est bon, tu passes 3 mois à regarder ne serait-ce qu'une image. Quoi.
Bien, ces jours, tu retrouves ton image à toi.
Voilà, c'est aussi, ça arrive aussi de se faire vandaliser quelques images. Mais. Oui, moi je pense que, enfin, dans tous les cas, moi je l'ai vu au niveau du livre depuis les années 80. Oui, il y a déjà plus de collections, plus de livres, il y a eu plus de mouvements parce qu'à un moment donné, la fin du poche, ça a créé un schisme. Il y a eu quand même une période où il y avait moins de jobs pour les illustrateurs avant l'arrivée des semi-poches en fait. Hein, l'invention du semi-poche a été une grande invention des éditeurs parce que forcément on y payait l'auteur le même prix, alors que le prix du livre était, lui, bien plus élevé. C'était pas juste pour faire beau, hein, c'était juste parce que sur un même manuscrit, ça rapporte quand même plus de fric de vendre un semi-poche qu'un poche. Et c'est pour ça que les auteurs qui ne vendent que du poche, ils sont bien malheureux d'ailleurs, parce qu'avec des tirages énormes, ils arrivent à moins gagner leur vie que celui qui vendra du semi-poche a un peu moins de tirages, forcément. Pas les mêmes tarifs, pas les mêmes droits d'auteur. Mais donc oui, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'illustrateurs entre guillemets aujourd'hui, pas forcément de qualité, il y en a énormément de qualité bien entendu, mais c'est un petit peu comme l'arrivée du numérique a impacté toutes les professions, hein. Aujourd'hui il y a tout le monde est photographe, hein, il suffit d'avoir un smartphone, tout le monde est cinéaste, il suffit d'avoir une GoPro, et donc tout le monde est illustrateur parce qu'il suffit d'avoir Photoshop, quoi. Donc, du coup ça fait quand même beaucoup de choses, quoi, c'est sûr.
Dans la masse, vous pensez ?
Ouais, il y a quand même, moi, je trouve qu'il y a quand même une masse d'illustrateurs qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, il faut plus se dépatouiller. Enfin, moi, je ne sais pas, moi, on est un peu assis nous, sur les 20 dernières années, donc c'est peut-être pas pareil. Mais aujourd'hui, un jeune qui veut être illustrateur, il doit quand même s'accrocher. Quoi.
C'est vrai qu'il y a, quelques années, quand on revenir au roman, déjà, là, justement, on avait Sudmac. Personne ne savait qui c'était.
Si, si. C'était le mec qui faisait des couvertures qui n'avaient pas de rapport avec ce qu'il y avait à l'intérieur.
Il y a quand même des couvertures qui ont un rapport. Hein.
Très peu.
Oui, mais très peu. Mais voilà, il y avait Sudmac. Quand on avait un peu de chance, qu'on avait un peu plus de vision, il y avait Nicolet, Cazard. Voilà, quand on changeait un petit peu de maison d'édition. Mais c'est vrai que.
Maintenant,
oui, ouais. Mais voilà, mais le truc, c'est qu'il y avait beaucoup plus de. Disons que maintenant, les lignes graphiques sont beaucoup plus diversifiées et on se retrouve avec en couverture des photos qui viennent de banques de photos, du purement graphique simplement. Donc y a un studio graphique qui va s'en occuper. Ils vont faire 15 illustrations pour les 3 prochaines années, etc. etc. Donc les illustrations. Par contre, l'avantage aussi. Désolé messieurs, c'est que ça laisse la place à de jeunes créateurs, à de jeunes illustrateurs qui vont faire leurs premières armes là-dedans, maintenant qui vont travailler pour des jeux de cartes, qui vont travailler sur ci, sur ça, voilà, il y a des grands talents aussi qui viennent des jeux de cartes, qui vont dans les jeux de cartes, les frangins et les jumeaux, comme ils s'appellent déjà, les illustrateurs américains. Avoir 80
balais.
Hildebrandt. Voilà. Les frères de Hildebrandt, ils ont fait des tonnes d'illustrations pour des romans, des tonnes d'illustrations pour le jeu de rôle, et ils ont fait toute une série de cartes pour Magic.
Oula.
Mais ensuite, il y a une marque Hildebrandt, voilà, c'est eux, ils peuvent se le permettre parce que c'est une patte aussi. Mais oui, je pense qu'il y a la diversité technologique a fait que les illustrateurs, les grands illustrateurs se retrouvent noyés dans la masse. Connus ou pas connus.
C'est assez logique qu'il y ait plus d'illustrateurs, puisque c'est logique qu'il y ait plus d'illustrateurs. Il y avait, quand on regardait les industries qui utilisaient des illustrateurs, entre guillemets, à l'époque, il y avait quoi, le livre de poche et peut-être le cinéma pour les storyboards ou les choses comme ça, ou les affiches. Aujourd'hui, c'est vrai que l'avènement du jeu vidéo, quand on sait que sur un jeu, il y a, je ne sais pas, au moins entre 80 et 800 dessinateurs, donc forcément, il y a plus de consommation d'illustrateurs et donc forcément plus de masse d'illustrateurs qui sortent, d'où les écoles, tout ça. Quoi. Mais moi, je pense que ça a gagné en qualité, forcément, quand même, parce que du coup, il y a un challenge. C'est vrai que ce que l'on voit aujourd'hui sur les couvertures, c'est le fleuve noir en rêvait. Et les couvertures du fleuve noir n'auraient jamais vendu un bouquin aujourd'hui. Quoi. Jamais. Quelle que soit la qualité du bouquin.
Non, mais j'ai pas forcément quelque chose à rajouter là.
C'est difficile de savoir la question, c'était la reconnaissance en fait globale, etc. Moi je dirais juste qu'en fait j'avais à notre époque même il n'y a pas si longtemps, c'était assez difficile de connaître un illustrateur chinois par exemple, ou polonais, très difficile. Maintenant c'est extrêmement facile, il y a des réseaux comme ArtStation où on voit une diversité mais monstrueuse. Et en même temps, c'est à la fois, alors pour nous c'est un peu stressant parce que c'est sûr qu'il y a une qualité monstrueuse, mais à la fois on peut discuter plus facilement avec un illustrateur chinois, ça m'est arrivé 2-3 fois, voilà, parce que c'est plus facile de connaître les gens, je trouve, qu'il y a peut-être 20 ans, allez, c'est pas si vieux, en sortant de notre cercle français en fait. Voilà. À la fois, la concurrence, elle est de partout, et ça, c'est une autre question.
Mais oui, au niveau de la reconnaissance pure, c'est vrai que le lustre de l'illustrateur, c'est un peu terminé.
On
puis on n'est pas forcément des bons exemples, des bons exemples, parce qu'il faut quand même comprendre que vous avez devant vous des illustrateurs qui ont connu l'arrivée d'Internet. Et c'est pas pareil. Ça a changé forcément la donne, justement, dans la communication. Mais moi, je me souviens quand même d'originaux envoyés par avion ou envoyés par la poste pour que l'éditeur l'ait dans les temps. Donc, c'était une vraie galère. Et alors qu'aujourd'hui, bon, ben, c'est sûr, voilà, quand on dit Pascal, c'est quand même...
Il y a du bien, enfin, voilà, après, c'est un autre débat, là.
L'année prochaine, il faudrait inviter des illustrateurs un peu plus jeunes.
Je vous propose qu'on garde ce débat-là pour l'an prochain.
Voilà.
On s'arrête sur ces belles paroles. Avant Internet, c'était mieux avant Internet ? Oui. Frère Dilou, est-ce
oui.
que c'était...
Ah oui. Je les ai même lus en anglais. Donc, à partir du troisième, je les ai lus en anglais. Les deux premiers sont très bien. Après, je trouve que ça se dégrade quand même. Je trouve que la qualité d'écriture se dégrade... Justement, en fait, c'était les deux ouvrages américains qui tenaient bien la route, les deux premiers, là, après. Je trouve que c'est un peu plus poussif. Enfin, ça... Elle fait du feuillet, quand même. Hein.
C'est tout bon ? On vous libère ? Oui ?
Radicalement différentes, donc en fait on s'y essaye même pas, sauf un ou deux qui se barrent de temps en temps au Canada et qui vont bosser pour les Américains, mais c'est quand même, il y en a quand même très peu. Généralement, la demande des éditeurs, de toute façon, c'est de surtout pas faire ce qui a été fait par les Américains, les Allemands, ou surtout pas. Ça, c'est la deuxième chose. Comme c'est pas directement notre culture, c'est pas simple de s'adapter. Hein, ça va me revenir.
C'est le cas typique du marketing, en fait, là, pour vous. Voilà.
Oui, et du coup, non, moi, ça m'est jamais arrivé. Si, au début, il y avait des plans pour faire des illustrations avec des Américains, donc il y a une demande quand même, c'est une attirance des autres pays pour une autre culture, quand même, hein, du point de vue de l'approche graphique et tout. Je pense qu'il faut être sacrément bon et d'avoir ça comme la bouteille pour être appelé par l'étranger.
Francis nous quitte ce qu'il est... Ouais. Voilà. Il est attendu et puis vous le retrouverez sur en plus, ouais, vous le retrouverez sur scène comme le batteur des bons à tirer ce soir. je voulais vous remercier. Ça répondait à la question ? Ouais, c'est bon. Vous remercier tous les 3,5. Non, parce qu'il y en a eu plusieurs sur 3,5 avant le temps que tu arrives.
Ah, ouais.
Vous encouragez tous à poursuivre la discussion, pourquoi pas à leur stand
ouais.
demain. Et puis jeter un coup d'œil à l'anthologie du festival, d'abord parce qu'il y a 10 belles plumes et 2 beaux crayons, et ensuite parce que c'est un encouragement aussi pour des auteurs qui vont pour une fois pour une anthologie n'ont pas être payés 10% des gains à se diviser entre les auteurs et les illustrateurs, mais 90% des gains. Et j'attire votre attention sur cette démarche qui fait que c'est un boulot qui est super mal payé. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, que ce soit l'auteur ou l'écrivain, ou l'illustrateur, je veux dire, et que bah, l'art, ça a une valeur. S'il vous plaît, laissez-leur leur valeur.
ne volez pas les images, ne les transmettez pas n'importe comment. Et faites-vous plaisir, offrez-vous une belle anthologie.
Merci, Fred.
Je t'en prie. J'y arrive pas. À...